Fever, c'était The Black Keys, un instant sur Radio Canu. Juste avant, on a entendu Mel, Un pied dans le vide. Et encore Lady Save the Rain, Public Warning. Vous êtes bien sur la plus rebelle des radios et les bandes continuent.
Radio Canu, c'est sur le 102.2 MHz. Radio Canu, la radio la plus rebelle et la plus libre de Lyon, sur Lyon, sa région. Radio Canu, 102.2 MHz, bien sûr.
nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter la fouille.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, il est 19h12 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, comme toutes les semaines, on va faire un tour de l'actualité internationale, et nationale et locale. Alors, international, on va aller faire un tour en Amérique du Sud pour voir les dernières nouvelles qui nous arrivent du Venezuela. Et on va voir, faire un petit point rapide sur les conditions de détention de Carlos Ghosn au Japon. Au niveau national, nous irons pas très loin, nous irons voir à Grenoble et constater que le meurtre de la police de 2 jeunes qui ont eu lieu ce week-end. Nous ferons un tour des différentes manifestations de l'acte 16 des Gilets jaunes pour finir finalement sur revenir sur les derniers événements qui ont eu lieu au CRA de Saint-Exupéry à Lyon pour conclure sur le local.
Alors c'est parti pour le Venezuela. Vous savez, depuis maintenant 2 mois, peut-être disons 1 mois depuis janvier dernier, qu'il y a une crise politique qui s'oppose, disons, beaucoup de pays, et notamment les États-Unis et la Russie. Donc ce qu'il faut retenir, il faut dire tout simplement que la crise politique vénézuélienne perdure et toujours pas de solution entre Juan Guaido et Nicolas Maduro. Les grandes puissances se divisent derrière ces gens politiques. D'un côté, vous avez les États-Unis et ses alliés, je peux citer le Canada, la France, l'Australie, la Colombie, la Costa Rica et le Brésil, qui soutient Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim depuis janvier. Donc, ces grandes puissances multiplient les sanctions économiques contre l'adversaire de Juan Guaido. De l'autre côté, vous avez l'armée cubaine qui dit soutenir le régime vénézuélien hasta la victoria finale, qui veut dire tout simplement en français jusqu'à la victoire finale. Le Cuba n'est pas le seul à soutenir Nicolas Maduro dans cette région. Il y a aussi le Mexique, et au niveau mondial, on peut citer la Turquie, la Chine, la Russie, le mouvement 5 étoiles en Italie et la Grèce via son président Alexis Tsipras, qui reste fidèle à son allié socialiste Nicolas Maduro. Quant à la sanction économique imposée par les États-Unis et ses alliés, Nicolas Maduro, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov dénonce une provocation et l'influence extérieure destructrice des États-Unis. Aujourd'hui, même si la situation reste tendue au Venezuela, beaucoup d'observateurs pensent que Juan Guaido est en train de perdre la bataille face à Nicolas Maduro, qui quand même a pu, qui a quand même expulsé une délégation composée de 5 eurodéputés et députés qui répondaient à l'invitation de Juan Guaido. Et d'ailleurs aussi, la semaine dernière, Juan Guaido avait échoué à l'acheminement d'aide alimentaire à la frontière colombienne-Venezuela. Donc, il dirigeait le convoi. Et le troisième point aussi important pour Juan Guaido et ses alliés était une opération militaire pour renverser le régime Maduro. Mais cela aussi est avoué à l'échec, car la Chine et la Russie ont fait une opposition au projet du veto des Américains présenté au Conseil de sécurité sur le Venezuela. Depuis, il faut dire, l'opposant à Nicolas Maduro multiplie ses déplacements dans la région après la Colombie, le Paraguay, où il s'est rendu pour assurer des soutiens internationaux. Il est aussi reçu au Brésil par Bolsonaro. Bolsonaro à son bureau. Merci. Après tête à tête entre ces deux hommes, Bolsonaro a déclaré à la presse que le Brésil agirait dans le cadre de la démocratie pour rétablir la démocratie au Venezuela. Le choix du Brésil à exclure la voie militaire pourrait influer, comme disaient certains, les positions des grandes puissances sur la gestion des crises vénézuéliennes. Certes, les deux grandes puissances, États-Unis et Russie, s'accusent mutuellement de l'ingérence, mais par contre, on peut dire qu'ils pourraient être d'accord que seul le dialogue et la souveraineté peuvent ramener la quiétude sociale à Venezuela. Si la question est légitime de se demander pourquoi d'autres puissances soutiennent Nicolas Maduro, qui refuse peut-être, de quitter le pouvoir, il faut tout simplement savoir que l'enjeu peut être aussi politique, mais aussi économique. On va prendre exemple, car la Chine avait prêté 20 milliards de dollars au Venezuela, censé être remboursé en pétrole. Donc, vous savez, le Venezuela est l'un des pays qui, quand même, possède ce potentiel, cet avantage que la nature nous offre. Et 5 milliards de dollars en septembre pour renflouer les caisses de l'État. Donc, la deuxième puissance économique mondiale n'a aucun intérêt que Maduro parte maintenant. Ce n'est pas du tout aussi au hasard si la Russie aussi s'est opposée à la tentative d'intervention militaire qu'a proposée les États-Unis contre le gouvernement Maduro. La Russie est le deuxième créancier du Venezuela. En décembre dernier, on se rappelle, deux bombardiers russes ont atterri à l'aéroport de Maquetia. Je ne prononce pas très bien, mais j'y arrive, pas loin de la capitale vénézuélienne, Caracas. La traversée des deux avions, presque la moitié de la planète, n'est pas fortuite, près de 10 000 km. Disons, la présence de TU-160, c'est le nom des avions, qui peuvent faire 12 000 km sans être ravitaillés, a déclenché la colère de Maison Blanche. Pour le secrétaire d'État américain, Michael Pompeo, les peuples russes et vénézuéliens doivent savoir ce que cela signifie. Selon Michael Pompeo, ces deux gouvernements corrompus, donc il cite le gouvernement russe et vénézuélien, d'après lui, il gaspille les fonds publics et étouffe la liberté pendant que leur peuple souffre. Oui, aujourd'hui, les grandes puissances investissent plus dans l'armement que dans d'autres secteurs comme l'éducation ou la santé, y compris les États-Unis même. D'ailleurs, la réponse des Kremlin ne se fait pas attendre. Ils résettent la question des gaspillages de fonds publics pour le porte-parole de la présidence russe. Selon lui, seule la moitié du budget de la défense pourrait nourrir. Donc, je parle bien du budget de la défense américaine, pourrait nourrir toute l'Afrique. Après, je ne sais pas si c'est de la moquerie ou c'est vrai, mais on peut quand même penser que parce que les États-Unis est la première puissance économique mondiale et son budget vaut tout le budget de fonctionnement d'un continent, d'après Dmitry Peskov. Le gouvernement américain n'a pas fait. Donc, pour lui, le gouvernement américain n'a pas à faire de telles déclarations. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, les conseillers de reporter tout déplacement vers Venezuela. Les Vénézuéliens sont appelés à faire des stocks d'approvisionnement eau, nourriture et médicaments. Si on est tenté à croire à ces informations, on peut dire tout simplement que les 31 millions de des Vénézuéliens vivent dans un calvaire total et la peur au ventre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est qu'on peut dire, pour les grandes puissances, l'intérêt n'est pas de sauvegarder ou de sauver la démocratie, mais sinon de se battre pour défendre des intérêts économiques. Vous savez, après la Libye, on a vu le cas de la Syrie. Aujourd'hui, la question se pose pour le Venezuela et 2020 pour la Guinée. Car je rappelle ici que l'ambassadeur de la Russie en Guinée avait demandé, avait fait des déclarations allant dans le sens d'encourager le président actuel à briser un second mandat en République de Guinée.
Alors,
on continue,
on va continuer.
Après, plus c'est loin sur la Terre.
On va essayer de continuer sur un sujet qui se passe à peu près à l'autre bout de la planète, sur la problématique au Japon. On a pu apprendre par voie de presse que la famille, enfin la femme et les enfants de Carlos Ghosn, donc l'ancien patron du plus grand groupe en fait automobile mondial autour de Renault, Nissan et Mitsubishi, ils étaient en train de saisir un des organes de l'ONU pour dénoncer les conditions de traitement fait par le Japon contre le membre de leur famille. À l'heure actuelle, alors que dans le monde entier, des millions de personnes en fait sont détenues contre leur gré, en général pour n'avoir strictement rien fait ou simplement pour leurs idées.
Je sais pas s'il y a beaucoup de gens détenus avec de leur plein gré.
Oui, dans Paris, j'en doute.
ça doit arriver, mais bon. Ouais.
Ah ouais?
Non. Alors.
Lire un peu particulier.
Voilà. Pardon. Non, mais... Tidèle, quoi.
Oui, non. Alors que de toutes les semaines, en fait, aussi en France, en fait, des gilets jaunes sont arrêtés, emprisonnés, simplement pour avoir fait apporter des lunettes de protection ou avoir ramené du sérum physiologique. On est un peu gêné de voir que cette famille ose aller aussi haut pour simplement se plaindre, en fait, que son mari ou leur père est simplement traité de la même façon que n'importe quel autre prisonnier japonais et qu'il ne subit pas aucun traitement de faveur, chose qu'en fait ils sont en train de demander. Alors il est évident
en fait
qu'on
va... devrait être traité plus mal selon
oui.
nous.
Non mais c'est ça.
Logiquement.
À aucun moment évidemment on va dire que les prisons japonaises sont géniales et qu'il faut que tout le monde soit emprisonné. Au contraire.
Mais Carlos Ghosn oui.
Mais que Carlos Ghosn qui est clairement un criminel en blanc qui a détourné des sommes absolument monstrueuse, qui s'est marié quand même au château de Versailles aux frais de sa boîte en fait en faisant passer ça pour du mécénat et qui est donc un criminel notoire. Il est quand même assez délirant de voir en fait que cette grande bourgeoisie internationale ose aller utiliser l'ONU pour pouvoir exiger des meilleures conditions de traitement qui alors qu'elles ne sont pas du tout plus défavorables que n'importe quel autre prisonnier japonais. Alors évidemment on peut imaginer que pour ces gens qui sont habitués à vivre dans ce qu'on appelle l'ultra-luxe, ça peut leur faire un choc, mais en fait il faut simplement rappeler que cette personne est simplement traitée comme n'importe qui d'autre. Alors j'aimerais bien voir si un jour à l'ONU l'ensemble des prisonniers politiques du monde venaient se plaindre des conditions de détention, ça pourrait donner un sacré bazar et ça pourrait être assez intéressant à voir. Donc on va simplement conclure. Cette personne va
conclure la conclusion que voilà
est un gros connard,
que Carlos Ghosn clairement est en prison et qu'il le mérite bien au contraire et que c'est peut-être la seule bonne nouvelle qui nous arrive de la prison, et on peut donc conclure quand même que abat tous les prisons et abat tous les bourgeois
et Carlos Ghosn
qui oui. doit quand même probablement avoir un petit traitement de faveur par rapport à certains autres prisonniers japonais, ce serait à vérifier, mais bon en tout cas on le plaint pas, ça c'est sûr
hein, ouais.
Alors dans cette émission,
les larmes de bourgeois ne nous font nous-mêmes pas pleurer.
Oh, c'est beau, je me demandais ce que tu allais dire, mais ça me bouleverse.
On voit Disney, attention.
Alors, puisque dans cette émission, on va pas mal parler de violences policières et qu'on déteste ça, on va vous passer des chansons contre les violences policières.
Mais, d'ailleurs, cette première, on peut peut-être la dédicacer aux Algériens qui se font tabasser lors des manifs contre Bouteflika, qui se sont fait tabasser ce week-end et dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir, mais du coup, cette première chanson peut leur être dédiée, puisqu'eux aussi sont victimes de violences policières.
Complètement, et en France aussi, ils sont victimes de violences policières, notamment dans les quartiers populaires. Alors, c'est Georgia Smith, on vous l'avait déjà mis, et le titre c'est Blue Light.
Maybe fairy lights, those blue lights, into the strobe lights. shadow shows no emotion. So what's even the fuss? But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, love blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hands in the tool, is it question your friendship as men like you gonna make?
Vous êtes bien sur Radio Canu,
la plus rebelle des radios,
102.2. Et c'était donc Georgia Smith, Blue Lights, donc l'histoire d'un petit ado noir qui se fait poursuivre par les flics.
Et qui fait écho à l'actualité, puisqu'on va faire un tour du côté de l'Isère, plus précisément à Grenoble, où la police a encore frappé. Samedi soir, autour de 22h30, deux jeunes en scooter, sans casque, sont donc pris en charge. Sont donc pris en chasse par la police alors qu'ils roulent sur l'autoroute. Ils se retrouvent donc coincés entre le parapet et un bus qui serrait à droite pour laisser donc passer le véhicule de police toute sirène hurlante. Les deux jeunes de 17 et 19 ans sont décédés sur le coup. S'en sont suivies donc deux nuits d'émeute dans le quartier du Mistral où ils vivaient. Alors une caserne de CRS a été prise pour cible. Les flics ont répondu à des jets de cocktails Molotov par des tirs de lacrymo et de LBD. Des voitures ainsi que des poubelles ont été incendiées et aussi du mobilier urbain. Alors a priori aucune interpellation a eu lieu pour le moment. On imagine que la situation n'est pas prête de se calmer et on comprend bien, les jeunes des quartiers populaires sont les premières victimes des violences policières et ces violences quotidiennes ne peuvent qu'aboutir au drame que le Mistral a connu ce week-end. Les noms d'Adam et Fatih s'ajoutent donc à la longue liste des personnes tuées par la police. En 42 ans, Bastamag a recensé 578 morts. Il est probable que ces chiffres soient d'ailleurs légèrement en dessous de la réalité. De juillet 2017 à mai 2018, l'IGPN elle-même a recensé 14 morts dans les mains de la police. On est donc largement au-dessus d'un mort par mois. Ça fait beaucoup, surtout quand on sait que dans au moins 60% des cas, les victimes n'étaient même pas armées. Alors selon Bastamag, toujours 14% des victimes sont tuées dans un accident routier. Alors souvent, c'est des décès qui interviennent après un pare-choquage de la police, c'est-à-dire que la police va coincer ou pousser le véhicule en fuite pour l'intercepter. Quand il s'agit de deux roues, cette technique s'avère bien souvent fatale pour les passagers du véhicule. Et même sans pare-choquage, en fait, ces courses-poursuites, elles sont souvent meurtrières. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une note de la police invite à ne pas entamer ce genre de course assassine en dehors d'une éventuelle mise en danger immédiate de la vie d'autrui. Donc d'autres personnes. Les policiers sont donc invités à faire preuve de discernement. Alors c'est assez vague, mais la note précise que la poursuite de véhicules doit se faire dans une situation grave, c'est-à-dire dans le cas, je cite, de la fuite d'un individu armé ayant l'intention d'attenter à la vie d'un tiers, d'un auteur armé ou non d'un crime de sang, d'un auteur non identifié d'autres crimes ou délits entraînant un préjudice corporel. Et il est bien spécifié, je cite, que dans les autres situations pénales, toute poursuite systématique est exclue, notamment en cas de refus d'obtempérer. On recourt donc alors à la notion de discernement. Alors, dans ce cas, ces deux jeunes grenoblois, on est bien loin d'une situation grave. Et malgré ça et les nombreuses victimes, la pratique de la course-poursuite, surtout quand les jeunes n'ont pas de casque sur leur scooter, elle continue. Alors on se souvient par exemple de Curtis qui a été tué dans les Hauts-de-Seine le 5 mai 2017 alors qu'il roulait en quad. On pense également à Mehdi, tué à Vénissieux en décembre 2016, alors qu'il était, lui, en scooter. Plus récemment, à Lyon, mi-janvier, un véhicule avait fini en bas de la montée des S après une de ses courses-poursuites meurtrières. Bon, alors, dans ce cas, les deux occupants sont de véritables miraculeux, hein, miraculés, parce qu'ils sont quand même descendus 15 mètres en contrebas. C'est en fait, c'est plutôt la police qui a eu de la chance que les deux s'en sortent vivants, puisque, une fois de plus, les policiers au volant ont fait preuve d'aucun discernement, préférant mettre en danger la vie des occupants, innocents jusqu'à preuve du contraire, et d'ailleurs qu'ils soient innocents ou non, on s'en fout finalement, puisque la peine de mort est toujours pas rétablie en France. On doute donc très fort de la capacité des keufs à faire preuve de discernement dans ce genre de situation au vu du nombre de morts. D'ailleurs, il faut noter que des stages de renoncement sont proposés aux policiers pour apprendre le discernement nécessaire pour savoir quand mettre fin à la poursuite. Et oui, parce que bah, les flics eux-mêmes se rendent bien compte qu'ils sont beaucoup trop teubés pour faire preuve justement de ce discernement indispensable dans ce genre de cas. Désarmons-les donc au plus vite, puisqu'ils sont extrêmement dangereux. Et surtout, n'oublions pas
Malik,
Ali,
Ziyad,
Bouna,
Lassana,
Raouf,
Tina,
Karim,
Steve,
Abdel,
Rémi,
Abdoulaye,
Nabil,
Yacine,
Adama,
Karim,
Mehdi
et tous les autres qu'on cite pas mais qu'on n'oublie pas. Et en leur mémoire, on écoute tout de suite Fuck Da Police.
Voilà, d'un petit groupe hein, des années 80 qui s'appelle NWA, avec notamment Ice Cube et Dr. Dre dedans. Fuck Da Police.
In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe-to-toe in the middle of a cell. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. The police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police.
Example of scene one. Oh, shit. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path of police. I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two.
They can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police.
Once you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit.
I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, cause my identity by itself causes violence. Or E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the eight, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police.
Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
Hey, that's a lie! That's a goddamn lie!
Get him out of here!
I want justice!
Get him the fuck out of my
face! I want justice!
Out right now!
Fuck you, you black motherfucker!
Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police!
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, il est 19h38 et c'est le Canu Info
du lundi. Et on vient d'écouter NWA, c'est-à-dire Niggas With Attitude, donc sorti en 88, Fuck Da Police. Et pour la petite histoire, ce titre a été censuré lors des tournées par le gouvernement américain, mais eh bien, les chanteurs ont décidé de le jouer systématiquement et à chaque fois. Donc bien joué à eux.
Et comme ils sont aussi victimes de la répression policière, on va tout de suite parler des Gilets jaunes.
Tout à fait. Alors, c'est un tour particulièrement non exhaustif hein, que de l'acte 16 que je vais vous apprendre ici. Faire ici, voilà. J'ai pas eu le temps d'aller dans beaucoup de villes, d'aller voir dans beaucoup de villes comment ça s'est déroulé. Mais on va surtout parler donc des violences policières et de Toulouse. Hein, Toulouse qui est toujours le fief des Gilets jaunes. Il y avait environ pas loin de 10 000 personnes, ce qui est toujours donc énorme, ça ne désemplit pas, et beaucoup de violences policières, même plus que d'habitude. Le gouvernement continue de se dire probablement que c'est la solution pour calmer les gens, mais ça ne marche pas. Alors, il y a eu un changement de stratégie à Toulouse des deux côtés. D'habitude, la répression policière commence vers 16h30, 17h, vers le Capitole. Pour une fois, les Gilets jaunes ont préféré défiler sur les grands boulevards entre Arnaud-Bernard et le Monument aux Morts. Les flics, qui ont visiblement été un peu surpris, ont donc changé de stratégie, attaquant plutôt sur les grands boulevards, près de Jeanne d'Arc. Les flics donc ont alors tapé très fort à base de lacrymo, en veux-tu en voilà, d'utilisation de canons à eau, beaucoup plus que d'habitude, afin de dissoudre l'immense cortège. Déjà ici, à ce moment-là, sur les boulevards, il y a eu beaucoup de blessés d'interpellation, dont une scène délirante à noter quand même, où un couple de passants retraités s'est fait salement matraquer sous le regard halluciné des gilets jaunes et des passants. C'était un couple de retraités qui passaient dans le coin et ils ont pris des coups de matraque. C'est hallucinant. Là, la BAC en moto a œuvré dans les rues adjacentes. Alors la BAC en moto, on les appelle les voltigeurs, et c'est normalement interdit depuis 1986 quand un certain Malek Oussekine a été tué par les voltigeurs en pleine vitesse, hein, qui l'ont donc tué quasiment sur le coup. Donc ces voltigeurs, ils sont très présents à Toulouse et ils ont fait très mal samedi. Ils ont massivement utilisé des grenades GLI F4, vous savez, ces grenades avec de la TNT, qui ont fait perdre beaucoup de mains depuis le début de cette mobilisation. Beaucoup de tirs de LBD 40, dont on a déjà suffisamment parlé, pas besoin de repréciser ce que ça fait et ce que c'est. Et tout ça dans les rues adjacentes, sur des petits groupes de manifestants qui fuyaient les attaques du Grand Boulevard. Voilà comment ils ont fonctionné, les flics, samedi, dans une ruelle, et c'est filmé. Autre truc hallucinant, un CRS gaz en pleine tête, un gilet jaune en fauteuil roulant qui ne faisait strictement rien, à part visiblement qui allait parler au CRS peut-être pour lui dire de se calmer. Donc voilà, voilà pour Toulouse, hein. Vous pouvez avoir un peu plus d'infos là-dessus sur le site Yatta par exemple. Alors autre scène choquante à Paris, un passant, avenue de Wagram, ou de Vagrage, j'ai noté ça très, très mal, pardon. Donc un noir a reçu une balle de LBD 40 en pleine mâchoire. Il est immédiatement tombé en crachant plusieurs dents, c'est-à-dire que c'était visible qu'il avait perdu ses dents. Le tir était parti de très près, puisque en fait ce qui se passait, c'est que il y a un petit groupe de personnes, des gilets jaunes et des passants, dont faisait partie ce monsieur, qui ont décidé d'aller dire à un flic de lâcher un jeune qui était au sol, qui était en train de se faire tabasser au sol. Et voilà, et ce mec-là, et ben, il a parlé au flic, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Un collègue à côté lui a tiré en pleine tête, et il a perdu plusieurs de ses dents. Dernier exemple de violence policière liée aux armes de la police, à Nantes, un manifestant gilet jaune a pris un tir de LBD 40 dans les parties génitales, et on sait que d'une part ça fait très mal, et que d'autre part on ne sait pas si il va avoir des conséquences derrière, mais c'est possible puisque évidemment il s'est immédiatement plié en deux et tombé par terre d'une douleur qu'on imagine particulièrement terrible.
C'est arrivé plusieurs fois que des manifestants même je me souviens d'un jeune pendant une fête de l'Aïd qui avait perdu un testicule comme ça juste avec un tir comme ça alors qu'il était en train de marcher tranquillement.
Alors on rappelle que les tirs de LBD 40 dans les parties génitales sont interdits, et Christophe Castaner l'a d'ailleurs rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, que les flics ne visaient jamais les parties génitales, comme les flics ne visaient jamais la tête. On a deux exemples juste pour samedi dernier, il doit y en avoir un paquet d'autres, qui montre que, encore une fois, l'utilisation des tirs dans le visage ou dans les parties génitales est une pratique courante de la police, comme taper un couple de vieux qui n'a absolument rien fait, normalement, je crois que c'est interdit, hein, il me semble, comme les voltigeurs, c'est interdit, bref.
Comme poursuivre des jeunes en scooter
et les tuer et à Grenoble, eh bien, c'est interdit, mais tout ça continue de fonctionner à merveille. Alors, sur les chiffres, de manière générale, toujours intéressant de voir cette petite bataille de chiffres. Le gouvernement disait au début de l'après-midi, vers 14h, qu'il y avait dans toute la France 5600 manifestants. Et BFM TV, qui n'est quand même pas plus du côté du gouvernement, a assumé le fait que c'était faux et qu'il y en avait déjà beaucoup plus, ne serait-ce qu'à Paris. Bon, les chiffres finaux, donc le ministère de l'Intérieur donne 39 300 manifestants dans toute la France, donc tous les samedis ça diminue selon le ministère de l'Intérieur, et les chiffres que l'on a, donc qui viennent de Nombre Jaune, qui est un groupe qui a été créé depuis le mouvement des Gilets jaunes pour compter véritablement le nombre de manifestants, qui eux parlent d'à peu près 100 000 manifestants, et la semaine dernière ils parlaient d'à peu près 110 000 manifestants, donc on n'est pas beaucoup en deçà des mobilisations des semaines précédentes. Alors, et pour finir, puisque on est sur les gilets jaunes, et avant de passer au local, à Lyon, il y avait également beaucoup de monde, entre 3000 et 5000. Ça a été une grosse journée, hein, avec une présence des FAF qui a été avérée, puisqu'ils ont attaqué à plusieurs reprises des personnes dans le cortège, notamment des personnes qu'ils ont dû considérer comme étant des étrangers. Et ils ont fait le taf de défense du capital, puisque, par exemple, quand un mec s'est attaqué à une banque légitimement, eh bien, les FAF sont allés lui casser la gueule. Donc les FAF sont bien du côté des flics. Quand ils ne se font pas protéger, ils font leur travail. Voilà pour ce tour non exhaustif des gilets jaunes. Petite information, c'est que samedi, donc prochain évidemment, venez à Lyon à 14h, et si voulez vous protéger des FAF, eh bien essayez de retrouver le cortège anticapitaliste et
antiraciste.
Et la semaine d'après, eh bien le 16 mars, puisque c'est 15 jours plus tard, il y a un appel national à aller à Paris. Foutre le bordel.
Et du coup, on écoute tout de suite Sound of the Police.
Sound of the Police de KSR-One. Et vous allez voir, vous allez reconnaître un peu quelque chose et c'est pas ça, c'est pas ce que vous pensez.
Ah. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Be an officer, your wicked overseer. Your hot shot, you wanna get cops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or with my cars hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. There's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Take the word overseer like a sample. Repeat it very quickly and approve for example. Overseer, 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 officer, 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 officer. Yeah, officer from overseer. You need a little clarity? Check the similarity. So patrolling out in nation. The overseer could stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you're fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police, them have a little gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day. So they can run the light and be upon their way.
Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Check out the message in a rough style. The real criminal, honesty, or pink. Get checked for undercover anyone, D. Slaves up to today, but the black police officer, let's see it that way. He wanted salary, he wanted, so he put on a badge and kill people vain. My grandfather had to deal with the cops. My great-grandfather dealt with the cops. My great-grandfather had to deal with the cops. And then my great-great-great-great, when it's gonna stop? That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed.
Sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h50 et vous venez d'écouter Sound of the Police et pas
Assassin de la Police, comme tout le monde croyait en regardant la haine. Eh bien oui, mais ça c'est fini, ça. Il faut se mettre un peu à jour.
Et donc c'est That's the Sound of the Police.
KSR.
Voilà, vous aurez KRS, quelque KSR. Chose KRS. Ce soir.
Voilà.
Et on continue avec l'actualité locale et un petit retour sur ce qui se passe au
Au CRA de Saint-Exupéry.
Au CRA, c'est-à-dire ?
Alors au CRA, bon, très rapidement. Donc un CRA, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de rétention administrative.
Ah, il l'avait prévu, bien joué. C'est pas de l'improvisation. Donc,
alors c'est des endroits, donc en fait des prisons tout simplement, qui sont utilisés pour donc emprisonner les étrangers, pour l'instant jusqu'à une durée de 90 jours, à qui l'État français ne reconnaît plus le droit de séjourner sur son territoire, dans l'optique de les expulser par la force de ce dit territoire. Donc à Lyon, le CRA qui concerne la région est à Saint-Exupéry, donc à côté de l'aéroport, ce qui permet évidemment d'expulser les gens beaucoup plus facilement.
Pratique, pas très long.
Bah oui, c'est juste à côté, donc c'est beaucoup plus compliqué pour tous les militants, les familles et les soutiens de venir faire quoi que ce soit. Et donc voilà. Et évidemment, ce lieu, comme toutes les prisons, c'est un lieu extrêmement violent en fait, où il y a régulièrement en fait des tortures et des privations qui sont faites aux détenus. Et cette semaine, il y a eu des très très, très très beaux exemples tout aussi horribles. Voilà. Donc on va revenir sur les faits. Donc ça a commencé en fait, ça a fortement piré mardi cette semaine, où suite à une bagarre entre détenus, les forces de l'ordre qui s'occupent du maintien de l'ordre à l'intérieur du CRA ont commencé à réprimer sauvagement en fait tout le monde à coups de gaz et de matraques. Dans le lot, un certain nombre de personnes ont essayé de profiter du bazar pour s'évader. Et hélas, ils n'ont pas réussi, et ce qui a entraîné une très très forte augmentation de la répression, qui a quand même amené en fait à ce que 5 personnes soient arrêtées et envoyées en garde à vue, et surtout 6 personnes en fait ont été envoyées aux urgences, dont un suite à des gros problèmes cardiaques en fait liés à un coup de taser. Et tout l'ensemble de ces énormément de personnes aussi, enfin, mais qui n'ont pas été recensées, il y a eu énormément d'évanouissements à cause des gaz et un certain nombre de gros problèmes de santé. Toute la semaine, c'est continué avec une très forte répression pour les personnes encore intérieures, avec notamment des fouilles de cellules extrêmement violentes et humiliantes, qui a été une très forte augmentation de la tension sur place, qui a amené vendredi matin à une nouvelle explosion de violence de la part des forces de l'ordre, qui ont blessé encore au moins un détenu et ont envoyé 2 personnes en garde à vue. Dans cette logique en fait de maintien de l'ordre, les forces de l'ordre ont décidé de mettre en place, ce qui est totalement illégal aussi dans le droit français, des punitions collectives, et qui ont donc interdit en fait à toutes les personnes sur place de se rendre à l'infirmerie, un déjà pour se faire soigner, deux pour faire constater les différentes blessures qu'ils avaient subies dans les jours précédents. Ils ont aussi interdit la privation de toute forme de visite de la part de l'extérieur, donc on n'a plus aucun contact et possibilité de raconter les tortures qui se passent à l'intérieur, et ils ont enfin interdit la vente de cigarettes, qui est pourtant bien, très bienvenue pour beaucoup de gens à l'intérieur. Un grand nombre de personnes détenues se sont lancées dans une grève de la faim dès vendredi matin pour justement exiger la libération des personnes qui est placées en garde à vue, et pour dénoncer, donc ça je vais citer, l'enfermement et l'isolement, la séparation des familles et destruction des liens, les violences policières et la répression, tabassage, gazage, garde à vue, le racisme et l'animalisation qu'ils subissent, la criminalisation des sans-papiers, la bouffe dégueulasse et non adaptée au régime alimentaire, pas de nourriture halal privant ainsi de repas de nombreuses personnes détenues, la non prise en charge médicale et aussi quelque chose d'extrêmement grave, la falsification d'identité pour expulser les personnes vers des pays qui ne sont pas les leurs. Et on a eu notamment le cas de personnes congolaises qui ont été envoyées en Angola, ce qui n'a vraiment vraiment aucun rapport, et qui est favorisé par un contexte de collaboration entre les États alimenté par la corruption. Donc les dernières nouvelles qu'on avait, et celles-ci. Dimanche matin, la grève de la faim avait été interrompue par une bonne partie des gens, notamment parce qu'en fait ils avaient été shootés au Médoc, et ce qui les empêchait de continuer. Ce qui nous reste aussi, hélas, à dénoncer, c'est le rôle à l'intérieur de tout ça d'un organisme en fait qui s'appelle Forum Réfugiés, qui a pour but normalement d'assurer l'accès aux droits aux personnes à l'intérieur des CRA, et qui en fait régulièrement dans les faits ne le fait absolument pas, au contraire est un agent parmi d'autres du système de répression en lien direct et dans la défense quotidienne en fait de la PAF, la police aux frontières, plutôt que des personnes qui à l'intérieur de ces centres.
Et surtout, je pense que c'est le Forum Réfugiés aussi qui est normalement l'interface, si tu veux, entre l'État et les demandeurs d'asile, et surtout, ce sont eux qui, normalement aussi, doivent être là pour répondre ou avoir de quoi besoin ces personnes détenues.
Et visiblement, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en ce moment, au CRA de Lyon, il y a notamment une personne enceinte qui nécessitera un suivi médical approfondi, qui ne l'a pas. Il y a tout un tas de suivis qui ne sont pas faits et dont Forum Réfugiés ne s'émeut absolument pas, quoi.
De toute façon, ce genre d'organisations qui vont dans les CRA, effectivement, souvent leur rôle est un peu d'être un supplétif de l'État et ont d'ailleurs des budgets assez colossaux, hein, puisqu'ils sont payés, hein, ils reçoivent des budgets de l'État pour tenir ce rôle. Et évidemment, l'État ne leur demande pas de compte, et voilà ce que ça donne. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle des CRA... sur Paris Lutte Info, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Il y a eu un relais de lutte qu'il y a eu, hein, de rébellion qu'il y a eu dans des CRA parisiens, notamment au Ménil, la semaine dernière, où certains ont tenté de s'évader. Alors parfois, certains sans-papiers arrivent à s'évader. Là, ce n'est pas le cas, mais il y a une tentative d'évasion collective. Il y a également eu un certain nombre de parloirs sauvages. Donc, c'est les parloirs, vous savez, illégaux. Deux personnes à l'extérieur qui essaient de parler aux personnes à l'intérieur. Ce qui a ensuite provoqué une émeute à l'intérieur d'un de ces CRA. Et puis, il y a eu également à Turin, hein, des sans-papiers, hein, qui sont révoltés aussi dans des prisons qui sont les équivalents des CRA. Voilà, donc c'est pas seulement lyonnais, hein, les conditions de vie, de non-vie dans les centres de rétention administrative sont tellement terribles qu'il y a régulièrement des révoltes, des rébellions, des tentatives d'évasion. Et on espère qu'une chose, c'est la destruction des CRA ou que toutes les évasions, toutes les tentatives d'évasion réussissent.
Et on souhaite bon courage à tous les copains enfermés, que ce soit dans les prisons françaises ou dans les CRA.
Les prisons du monde entier. Mais ce qui est aussi totalement délirant, c'est le blackout médiatique de qui que ce soit. Et heureusement, dans quelques militants font le travail de sortir des informations, parce que sinon, aucune personne, aucun média n'en parle. Et que, en fait, ces gens sont en train de mourir dans le silence le plus complet.
Alors écoutez Radio Canu et lisez Rébellion. Et on passe tout de suite à l'agenda.
Alors pour l'agenda, qui est quand même très chargé, une très bonne nouvelle en actualité et en rassemblement cette semaine, je vous invite notamment à aller, il y a trois choses très intéressantes. Il y a à partir de 18h un rassemblement devant la direction départementale de la cohésion sociale, fait par les travailleurs et travailleuses sociaux de l'urgence sociale qui se sont réunis pour justement dénoncer toutes les conditions d'accueil et notamment les conditions d'accueil des migrants qui ne sont dans les différents centres d'accueil où la plupart n'ont même pas accès. Et donc ce rassemblement est à partir de 18h devant le DDCS, devant la DDCS.
C'est où la DDCS?
Et donc c'est 33 rue Moncé, Lyon 3e.
Excellent.
Bien. C'est à côté de la métropole, tout simplement. Alors, après, en soirée, pour continuer, vous avez en fait deux projections de deux documentaires. Le premier qui se passera au bar Les Clameurs et revient sur l'histoire des bidonvilles à Lyon entre 1920 et 1970. Et le deuxième, c'est la projection à la Bourse du Travail d'un film, documentaire, qui s'appelle Attica, qui revient dans la thématique d'aujourd'hui sur la révolte dans les prisons de New York en 1971, qui s'était fini par un véritable massacre où plus de 43 personnes étaient mortes et plusieurs centaines de blessés.
On a l'heure, je ne sais pas.
20h à la Bourse du Travail.
19h pour les Clameurs et 20h pour Attica, à la Bourse.
Place Guichard, voilà. Métro B.
Information complète.
Mercredi, vous pourrez assister au CCVA de Villeurbanne, qui est le centre communal de vie associative, à une conférence gesticulée sur la véritable histoire du 8 mars et autres récits d'importance. Voilà, donc qui revient sur l'histoire de la journée des femmes et sur la question des problématiques des droits des femmes à travers le monde. Jeudi, le premier jeudi du mois, il y a donc le traditionnel
bistrot de la caisse.
Voilà. Donc, bistrot de la caisse.
Contre la répression.
Venez boire un coup.